Chapitre 6. Quatre sortes de foyers. En 1992, lors d'un séminaire réunissant des milliers de femmes, j'ai été interpellée par la description de quatre types de familles. Peut-être vous reconnaîtrez-vous dans l'une d'elles. Leurs situations permettent de saisir les sources cachées des conflits familiaux. Voici quatre exemples pris sur le vif pour illustrer ce que vivent certains couples. La première maison, la maison où tout va mal. Dans ce foyer, même si le mariage a été célébré à l'église, aucun des conjoints n'a la foi. Tous deux ont des horaires si chargés qu'ils n'ont plus le temps de se voir. La flamme du premier amour s'éteint rapidement. Bientôt, on ne se parle plus, on ne se comprend plus. L'épouse, Claire, se sent délaissée. Marc, son mari, investit son temps ailleurs, car dans son foyer, il se sent de plus en plus contesté. Les malentendus se multiplient, les soupçons réciproques minent la relation. Au moindre retard, on imagine le pire. On ne croit plus à la parole de l'autre. Au début du mariage, Claire a vécu plusieurs fausses couches qui l'ont profondément affectée. Puis deux garçons sont enfin nés. Marc n'a pas non plus été épargné. Les accidents semblent le poursuivre, que ce soit en voiture, à la maison ou au travail. Les rentrées de salaire sont apparemment suffisantes, mais l'argent semble s'évaporer on ne sait où, et les reproches mutuels à ce sujet n'arrangent rien. Les emprunts auprès des belles familles donnent l'occasion à celles-ci de s'ingérer dans le conflit. La confiance et l'amour ont disparu. Marc rentre de plus en plus tard et affiche ouvertement ses nouvelles conquêtes. À la maison, il accuse, insulte et va parfois jusqu'à frapper Claire. À charge de revanche, elle se met aussi à sortir avec d'autres hommes, ce qui entraîne d'épouvantables disputes. Marc dépense à présent l'argent du ménage pour entretenir ses maîtresses. Claire vit d'expédient, multipliant les emprunts. À l'amertume des infidélités s'ajoute l'angoisse des fins de mois. Les enfants sont livrés à eux-mêmes. Problèmes scolaires, insolence et vol font irruption chez l'aîné. On ne le reconnaît plus tant son comportement est devenu odieux. Pour s'acheter de la drogue, il vole sa mère, lui ment effrontément et va jusqu'à la menacer. Le cadet réagit par la déprime et se mure dans le silence. Il ne comprend pas pourquoi son père déserte le foyer. Il vit la situation comme si tout était de sa faute et adopte un comportement de perdant. Il accumule les échecs au grand désespoir de sa mère qui tente vainement de l'encourager. Claire recourt maintenant à toutes sortes de pratiques douteuses dans l'espoir d'une solution. Le médium qu'elle consulte la ruine. Elle ne se rend pas compte que les invocations adressées à des puissances maléfiques ont des conséquences néfastes sur toute la famille. La situation se dégrade encore. Ne trouvant plus le sommeil, elle est sous calmant. Son mari finit par quitter le foyer. La deuxième maison, la maison divisée. En fréquentant un groupe de maisons, Hélène, jeune épouse, a compris que Dieu l'aime et répond à ses prières. Elle se convertit sans hésitation. Pour la première fois de sa vie, elle expérimente une paix profonde. Luc, son mari, ne suit pas. À la surprise d'Hélène, la situation devient tendue, les problèmes se multiplient avec une étrange intensité. Tôt le matin, alors que tout est calme, au moment précis où elle ouvre sa Bible ou cherche à prier, le bébé se met à pleurer. Veut-elle se rendre à l'église? Son mari, qui lui laissait toute liberté, se montre soudain opposé. Les disputes et parfois les insultes la déstabilisent. Pourquoi réagit-il ainsi? Les moqueries de son cercle d'amis la désorientent. Il l'accuse d'être fanatique. Sa propre famille s'emploie à la ramener sur le droit chemin. Pour couronner le tout, son mari se met à sortir tous les samedis soirs. Elle se sent très seule. Il semble que personne ne la comprenne. Où sont passées cette joie et cette paix qu'elle avait ressentie au début de sa conversion? Profondément frustrée, elle est prête à tout envoyer promener, église, mari, famille. La situation lui paraît sans issue. Cependant, à cause des enfants, elle tient bon et essaye de s'accrocher au Seigneur envers et contre tout. Le plus douloureux, c'est d'être séparée de sa famille spirituelle, car son mari ne l'autorise plus à aller à l'église. Comme la plupart des jeunes convertis, Hélène a multiplié les réunions chrétiennes sans s'apercevoir des bouleversements familiaux et conjugaux que ses absences répétées ont entraînés. Pour son mari, l'église est devenue une menace. Elle lui vole son épouse. De plus, il est irrité par les leçons moralisantes que son épouse ne cesse de lui prodiguer. Cette attitude de reproche permanent l'a tellement exaspéré qu'il s'est mis à sortir et à boire plus que de raison pour bien montrer qu'il est libre. Hélène supplie le Seigneur de la sortir de ce cauchemar. Mais cela semble impossible car, dans le couple, le dialogue a cessé. Comment sortir de l'impasse? Elle se sent coupable, incapable de pardonner. L'amitié peut-elle refaire surface dans pareille situation? La troisième maison, la maison morose. Gabrielle est très dynamique et engagée dans la foi. André, son mari, ancien dans l'église, est apprécié pour sa pondération. Pourtant, leur relation de couple est chancelante. Gabrielle en souffre. Son mari, en pré-retraite, vit au foyer, mais ne participe à aucune tâche ménagère. Elle lui reproche surtout de ne pas avoir de dialogue avec elle, d'autant plus qu'il semble déverser toute son affection sur le chien. Harassée de fatigue, elle assume le ménage, un travail à l'extérieur et de multiples engagements dans la paroisse. Elle voudrait tellement que son mari l'aide un peu plus, ne serait-ce qu'en débarrassant la table. De son côté, André a l'impression que Gabrielle n'a que des exigences et des récriminations à son égard, et qu'elle n'écoute jamais quand il lui demande le moindre service. Étant tous deux des chrétiens engagés, ils n'envisagent pas la séparation, mais leur amitié est en triste état et leur culte de famille a cessé d'exister depuis bien longtemps. La quatrième maison, la maison bâtie sur le roc. Jean et Christine connaissent l'amour de Dieu. Leur amitié s'est approfondie au fil des années, car ils ont accepté ce qui fait la force et la faiblesse de chacun. Les petits travers de l'autre ne sont plus des sujets de dispute. Ils admettent leurs différences. Ils ont renoncé à s'éduquer mutuellement à coups de reproches. La diversité de leurs arrière-plans, parfois blessante au début du mariage, est maintenant perçue comme une richesse. Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a toujours des défis à relever. Un changement de programme mal communiqué, une négligence, un désaccord sur la discipline envers les enfants. Mais chaque jour, ils prient ensemble, ouvrant la Bible pour mieux la vivre. Leur dialogue résout les éventuelles frustrations de la journée. Cela leur permet d'affermir leur amour et, si nécessaire, de se réconcilier et de remettre les compteurs à zéro. Cette marche dans la lumière décuple l'efficacité de leurs prières. Au début, ils priaient côte à côte. Maintenant, ils s'accordent. Ils prient d'un même cœur. Si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander quoi que ce soit, cela leur sera donné par mon Père qui est dans les cieux. Matthieu 18, verset 19. Cette unité leur donne l'autorité qui fait fuir les démons. Pendant les premières années, face aux excellents petits plats de Christine, Jean marmonnait vaguement « C'est mangeable ». Aujourd'hui, il lui exprime chaleureusement sa gratitude. Il essaye de rendre les déplacements en voiture agréables. Il fait des pauses et renonce à doubler dans les endroits critiques, ce qui soulage Christine. De son côté, elle fait des efforts pour être ponctuelle et tenir parole lorsqu'elle s'engage dans un projet. Toutes ces petites attentions sont leur façon de se dire « je t'aime ». Dans ce couple, le mari a pu paraître apathique face à une épouse qui adore prendre des responsabilités, démarrer de nouveaux projets. Avec le temps, elle a découvert qu'ils ont une remarquable complémentarité. Lui, plus flegmatique, la protège, car elle foncerait tête baissée dans tous les défis qu'elle rencontre. Elle reconnaît la valeur de son discernement. En contrepartie, elle lui apporte confiance et enthousiasme, et l'encourage à prendre des responsabilités dans sa profession, dans son église. Elle croit en lui essaie de lui insuffler l'audace dont il a besoin. Dans leurs moments de détente, ils font de grandes excursions, fréquentent une chorale et s'évadent parfois au centre aquatique. Jean occupe maintenant un poste à responsabilité dans son entreprise. Leur foyer très ouvert donne envie de partager leur foi. On sait qu'on peut compter sur eux. Leurs enfants sont un réel témoignage. Ils sont le reflet d'une vie de famille équilibrée. Plusieurs de leurs amis sont venus à Christ. Reconquérir le terrain perdu. Sur un plan humain, la description des trois premières maisons se termine par un constat d'échec. Pourtant, chacune des situations pourrait connaître une tout autre issue. La soif d'être aimé et d'aimer reste profondément ancrée au cœur de chaque couple. Même si la fougue du premier amour s'est perdue, chacun souhaiterait retrouver cet élan qui les avait poussés l'un vers l'autre. Je me souviens d'un journaliste qui faisait le compte rendu d'un séminaire sur le mariage. Les responsables lui ont demandé ce que lui-même vivait avec son épouse. Très honnêtement, il a admis que leur relation s'était dégradée. On lui a alors demandé comment cela se passait au début. Sa réponse, pleine de douceur, ne laissa aucun doute. C'était parfait. Son attitude exprimait une profonde nostalgie, semblable à celle d'Adam se retournant pour contempler le paradis perdu. À toutes celles qui cherchent une solution, j'ose le dire, elle existe. On peut réapprendre à aimer et à être aimé. Si aujourd'hui votre couple s'en va à la dérive ou fait naufrage, reprenez courage. Il est encore temps de reconquérir le terrain perdu. Quelle que soit la maison dans laquelle vous vous situez, il est possible de la transformer comme nous le verrons dans le chapitre suivant.